Le signe du 10 au 12 décembre 2024 au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec Bâti Santé, Salvia Développement, Solare IT et Procivis sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour, ravi de vous retrouver sur nos antennes. On est ravi de vous faire vivre ce CIMI édition 2024 en direct du Palais des Congrès pendant 3 jours. Et j'ai le plaisir d'être avec 3 invités pour une table ronde IWG. Christelle Deveragnan, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes directrice générale, nouvelle directrice générale d'IWG France, bienvenue. Avec vous, Célia Calisti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice adjointe département bureau Île-de-France pour CBRE France. Et François Vermeil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de Working Space. Alors on va parler de travail, de travail hybride, on va parler des nouvelles façons de travailler, de vivre sa vie en alliant professionnel, personnel. On va parler des espaces de travail aussi. Avant tout, est-ce que vous pouvez déjà, Christelle, nous présenter IWG, le grand groupe, un groupe international?
Absolument. IWG, c'est International Workplace Group, déjà, qui a été fondé en 1989, soit il y a un peu plus de 35 ans aujourd'hui. Le fondateur de cette magnifique société, c'est Mark Dixon. Il est toujours à la tête de cette société. Aujourd'hui, IWG compte pas loin de 5000 sites ouverts ou à ouvrir.
Dans le monde.
Dans le monde entier, absolument, et dans 140 pays différents. Donc ça, c'est dans le monde. Et en France, aujourd'hui, on compte 150 sites ouverts ou qui vont ouvrir tout début d'année 2025 sous 6 marques différentes. Et dans le monde, on a 14 marques différentes.
Donc 6 marques en France qui sont un peu sur tout le territoire. Hein. Il y en a évidemment dans les grandes villes, Paris, Marseille, Lyon. Parlez-nous brièvement de ces 6 marques.
Bien sûr. Alors déjà, notre portefeuille comporte la moitié sur Paris et la région parisienne et l'autre moitié en région. En effet, nous sommes présents dans les plus grandes métropoles, vous le disiez, donc Paris, Marseille, Toulouse, Nice. Voilà. Et on est également, et de plus en plus, dans les villes moyenne,
oui.
ou en métropole, ou tout autour, en tout cas, des grandes métropoles et des grandes villes françaises. Donc oui, c'est notre objectif, en tout cas, et pour 2025, c'est d'ouvrir beaucoup plus de villes moyennes d'élargir, en tout cas, toutes ces marques qui sont, je peux les citer, donc HQ, Regus, Spaces, Factories, qui est donc en partenariat également avec Perial, Signature by Regus, Stop and Work, plus proche donc vers Fontainebleau par exemple, et voilà.
Et bien justement, tout à l'heure, on va parler de vos offres un peu plus en détail. Alors Célia, pouvez-vous nous présenter CBRE France?
Oui, bien sûr. Alors déjà, CBRE, c'est un groupe américain coté à la Bourse de New York qui est spécialisé dans le conseil en immobilier d'entreprise. C'est 130 000 collaborateurs à travers le monde et une présence dans plus de 100 pays. Et si on passe sur la France, donc c'est 1300 personnes, 40 implantations sur tout le territoire. Et donc notre métier, notre mission, c'est d'accompagner nos clients, investisseurs, utilisateurs sur tout ce qui touche à leur stratégie immobilière, à toutes les phases de leur projet et sur toutes les typologies d'actifs.
Voilà. Et puis François, alors Working Space.
Tout à fait. Donc je suis le fondateur de Working Space. Working Space, c'est une plateforme et une agence spécialisée dans les bureaux flexibles. Agence, car nous accompagnons des sociétés à trouver des bureaux dans des espaces flexibles, donc tout ce qui est espace de coworking, mais aussi des surfaces indépendantes clés en main. Donc nous intervenons en France et aussi dans quelques pays d'Europe. Et plateforme, car nous avons aussi un service pour du court terme,
oui.
C'est-à-dire proposer des espaces de travail à la journée, des salles de réunion, des accès dans des espaces partagés ou des bureaux privatifs pour quelques heures, quelques jours. Tout ça réservable directement en ligne.
Alors justement, on va parler de ces nouvelles tendances, hein, parce que c'est ça que vous évoquez. Alors juste avant, petite définition du travail flexible, des bureaux flexibles pour nos auditeurs.
Le flex office, bureau flexible, le flex office, si on parle de ça, c'est une nouvelle organisation du travail, c'est-à-dire c'est cette mode, cette tendance qui est là depuis quelques années, où il n'y a plus de bureau attitré en fait, aux salariés. Mais c'est un mot un peu valise comme le coworking, ça englobe plusieurs concepts en même temps. C'est la flexibilité du travail donc pour les salariés, la flexibilité immobilière pour les entreprises, avoir des bureaux avec moins d'engagement qu'un bail classique qui dure 3 ans, 6 ans, voire plus. Là, les contrats de prestation de services dans des espaces de bureaux flexibles, c'est 12 mois, 18 mois, 24 mois, en général, ce qui fait qu'il y a une visibilité beaucoup plus courte et une agilité beaucoup plus grande pour les entreprises.
Et pour les collaborateurs aussi, un peu plus d'agilité. Alors, on va parler du travail hybride. C'est vrai qu'on entend beaucoup ce terme depuis 2-3 ans. Qu'est-ce que le travail hybride, Christelle? Qu'est-ce que ça veut dire, travail hybride?
Alors, c'est un mode de travail, en effet, qui a émergé, on va dire qui a explosé après la pandémie. Hein. En tout cas, ça s'est légitimisé après la pandémie. Et qu'est-ce que ça veut dire déjà, le travail hybride? Ça veut dire qu'on multiplie les espaces de travail. Donc, en gros, on pourrait avoir une semaine type avec 2 jours de travail au siège, peu importe où est le siège, 2 jours de travail à côté de chez soi, donc dans un bureau annexe à côté de chez soi, donc à pas plus de 15 minutes à pied ou en vélo de son domicile, et 1 jour à la maison. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le travail hybride.
Donc c'est un peu le travail à sa sauce, quoi, à sa manière.
Absolument. Et puis, qui a un objectif très précis. Et c'est pour ça que les travailleurs aujourd'hui sont très friands de travail hybride, parce que ça améliore la qualité de vie, très clairement, à tous les niveaux. Au niveau domicile, déjà, ces personnes peuvent, en effet, grâce au travail hybride, choisir un domicile plus loin des grandes villes, et donc gagner en sérénité et éviter justement ce mouvement pendulaire maison, travail, travail, maison.
Et gagner en espace aussi, absolument,
gagner en espace de vie, absolument, donc en sérénité, en espace de vie, en bien-être, mais également c'est une économie substantielle pour eux, tant en termes de trajet, évidemment. Quand on travaille à 15 minutes de chez soi, soit on y va à pied, soit en vélo. C'est ce qu'on appelle la mobilité douce. Donc ça c'est à double sens, c'est du bien-être, c'est de l'économie. Mais également tout ce qui est frais de garde. Ouais. Frais de garde. Moi, j'ai des chiffres qui sont incroyables.
Oui, alors justement, vous avez des parce que vous faites de nombreuses études chez UWG, assez pointues, très intéressantes, sur les nouvelles tendances, sur les nouvelles envies des travailleurs, des coworkers. Et alors justement, concernant ce que vous disiez, les frais de garde.
Alors, les frais de garde, mais surtout dans cette étude donc, qui est parue en août 2024, donc toute récente, hein, on a un panel en fait de 1000 cadres qui utilisent justement le télétravail. En télétravail, c'est pas que à la maison, hein, c'est à proximité de chez soi, en tout cas en dehors du bureau traditionnel normal. Oui. Donc, sur ces 1000 personnes, on a 68% d'entre elles qui disent qu'elles refuseraient un travail qui ne leur permettrait pas d'avoir un travail justement hybride et qui leur imposerait de venir au travail 5 jours par semaine.
Donc 68%.
68%, c'est absolument énorme. Et donc, on a donc sur cette étude également... qui nous parle des jeunes diplômés. 67% d'entre eux n'envisagent pas de postuler à un emploi qui n'a pas justement cette possibilité ou ce mode de travail hybride.
Donc concrètement, le travail hybride, ça permet d'attirer les talents.
Ça permet d'attirer des talents et surtout de les retenir. Parce que quand on parle de nouveaux parents, par exemple, 72% estiment être devenus de meilleurs parents. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent passer entre 100 et 150 heures par an avec leur famille. C'est énorme quand on est à
bien sûr.
Et on parlait d'économie, donc en effet, c'est une économie substantielle de 5 200 € par an de frais de garde.
Et oui, parce que ça va vite en fait, hein. 30 minutes de trajet en plus par-ci, 30 minutes par-là.
Ça va très très vite.
Ça va vite.
Ouais.
Célia, concernant justement ce nouveau modèle de travail hybride, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que vous avez constaté chez CBRE?
Alors, en effet, donc, je rejoins Christelle, ça vient vraiment post-Covid. Avant, on n'en entendait pas du tout parler lors des recherches immobilières. Aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de stabilisation. Ça a été compliqué pour les entreprises de s'organiser, planning de télétravail, trouver justement le bon ratio, 3 jours, 2 jours par semaine. On va quand même vers un retour à plus de présentiel. Aujourd'hui, CBRE mène une étude également tous les ans auprès d'à peu près 120 sociétés pour connaître leur opinion sur ces différents sujets. Et la moitié des entreprises déclarent un taux d'occupation entre 41 et 60%. C'est plus 11 points comparé à l'an dernier.
D'accord. Donc ça, il y a une petite amélioration.
Une petite amélioration sur le retour au bureau.
Mais c'est vrai. Alors, François, c'est peut-être ce que vous avez constaté. Juste après le Covid, tout le monde parlait de télétravail. C'est vrai qu'on avait l'habitude d'être 100% en télétravail, mais on en est quand même revenu depuis un an, c'est ça. C'est vrai que la moyenne, c'est un peu moins. C'est 2 jours de télétravail par semaine. Est-ce que c'est ce que...
Oui, c'est à peu près ça dans les entreprises, entre 2 et 3. Ça dépend pour la plupart. Mais chacun son mode d'organisation interne. Mais effectivement, maintenant, c'est indiscutable dans le cahier des charges. En fait, il y a un roulement de présence des salariés. On va prendre peut-être moins de surface de bureau, mais en fait, faire un roulement pour que ça soit plus, pour que les gens puissent venir, ne pas avoir un bureau attitré à une personne si elle vient 3 jours par semaine seulement. Mmh. C'est un roulement naturel qui se fait. Ouais.
Est-ce que le travail hybride existait avant le Covid ?
Oui. Oui, il y avait des personnes qui travaillaient, mais c'était à la marge. C'était à la marge. C'était mal vu avant de travailler à la maison.
Oui, oui.
C'est vrai.
Oui, c'était ceux qui ne voulaient pas trop venir.
Voilà, c'est ça, oui, qui voulaient être cachés. En fait, on a des espèces on avait des espèces de tabous comme ça, où parce que les personnes travaillaient en remote, on n'avait pas la mainmise sur ce qu'ils faisaient au quotidien, on perdait en cohésion d'équipe. Enfin, voilà, toutes ces choses-là qu'on a entendues avant le Covid. Enfin, aujourd'hui, on voit très très bien qu'avec les nouvelles technologies...
C'est ça, on a plus d'outils aussi.
On a énormément d'outils aujourd'hui. Ouais. Et ça va aller encore plus loin parce qu'on a des outils comme la réalité augmentée. Enfin, on aura des cases 3D bientôt pour faire nos réunions, etc. Donc, on va de plus en plus vers ce modèle hybride. Et ça n'est pas qu'une tendance, c'est un modèle qui va durer.
Mmh. Célia, est-ce que vous pouvez nous parler du Flex Office, justement, à Paris?
Oui.
Qu'en est-il? Alors, ça, c'est développé
Alors, c'est un marché qui s'est beaucoup développé ces dernières années, surtout... on va dire que ça a commencé en 2015, ça a freiné en 2019-2020, justement avec le Covid, donc il y a mis un coup d'arrêt de toute façon au marché immobilier, et c'est reparti. Là, on est plutôt dans une phase également de stabilisation, mais le marché représente, alors selon les études, le coworking, enfin les centres d'affaires représentent entre 3 et 5% du parc immobilier à Paris.
Alors ça, c'est pour notre pays, mais nos voisins européens, est-ce qu'ils vivent la même chose? Chose, François.
Oui, la tendance du coworking, c'est partout, en Europe et dans le monde entier. Mais il y a des pays qui sont plus en avance que nous. Par exemple, au Royaume-Uni, en fait, la part de marché du flexible, on va dire, c'est entre 20 et 25%. Donc,
d'accord.
Encore une très grande marge de progression pour
donc, ils sont un peu plus en retard. Nous, on est un peu en retard par rapport à eux.
Exactement. Donc, il y a des pays qui sont très dynamiques en ce moment, par exemple, comme le Portugal, où il y a pas beaucoup d'acteurs, et donc les gens veulent la même chose qu'en Europe, et donc c'est un marché assez dynamique en ce moment.
Est-ce qu'on peut dire que ça a été amené par les pays anglo-saxons? Parce que c'est vrai que c'est ce qu'on entend parfois. Est-ce que c'est le cas?
Un peu, grâce aussi à IWG, parce que c'est une entreprise britannique à la base, donc ça fait partie du job. Mais c'est clairement, les anglo-saxons sont bien en avance.
Ouais. Alors justement, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vos clients, Christelle. Qui sont vos clients? Parce que c'est vrai que tout à l'heure, vous nous avez cité vos lieux, vos 6 marques qui sont réparties en France, évidemment à l'international, mais en France, qui sont vos clients?
En fait, on a... tout type de clients, j'ai envie de dire. Ça ne se limite absolument pas à une catégorie, mais on en a plusieurs. Il y en a trois principales qui se dénotent. On a évidemment les sociétés, les grandes sociétés, les grands utilisateurs, les grandes entreprises, et y compris celles du CAC 40, qui nous utilisent. J'ai presque envie de même vous révéler qu'on travaille quand même avec toutes les entreprises du CAC 40 aujourd'hui.
Donc vous avez des contrats avec eux?
Absolument, des contrats cadres.
Pour permettre à leurs collaborateurs de venir chez vous?
Absolument. Alors, on parle de CAC 40, mais on parle également de toutes les sociétés qui sont dans les Fortune 500 aujourd'hui.
Oui.
On travaille dans le monde entier avec toutes ces sociétés. On a des contrats cadres. On a des demandes très régulières de la part de ce qu'on appelle, nous, les corporate accounts mondiaux, qui nous interrogent pour des espaces à Paris, en région. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu une demande, une très grosse demande pour Paris et une autre pour Marseille, de manière concomitante pour le même client. Très gros client mondiale. Donc, ces sociétés nous utilisent pour plusieurs choses. Un, la flexibilité et l'évolutivité également des contrats. Le fait qu'ils veulent dérisquer également leur parc immobilier. Aujourd'hui, oui, ils ont de multiples contrats de bail qui sont plutôt lourds à gérer de manière générale. Et ça, partout en France et dans le monde. Donc, ils viennent nous voir en disant, voilà toute la liste, en fait, de mon portefeuille, en fait, immobilier. Et là, j'aimerais justement qu'on puisse travailler en collaboration avec vous sur toutes les surfaces de moins de 50 personnes. Et là, ça peut aller très, très, très vite. Oui. Donc, c'est là où vraiment on est en train de les aider à modéliser de manière beaucoup plus flexible leur parc immobilier. Donc, ça, c'est très important. Et puis, en plus, ça leur fera des économies coûts.
Bah oui, forcément.
Évidemment.
C'est ce qu'ils recherchent aussi. Oui.
Donc, il y a vraiment tous ces grands groupes. Ensuite, il y a les startups.
Oui.
Les startups, évidemment.
Qui ont besoin de locaux.
C'est ça, qui ont besoin de locaux, qui ont besoin de flexibilité contractuelle. Oui. Aujourd'hui, une startup, ça commence. Vous êtes deux, et puis après, vous êtes cinq, puis après, vous êtes 20 et 100. Et on ne peut pas prédire ce genre de choses. En tout cas, on a un business plan, mais bon, au-delà du business plan, ça peut très, très bien se passer, et comme ça peut un peu moins bien se passer. Donc, dérisquer, finalement, ces locaux, c'est hyper important quand on sait que le coût de l'immobilier, c'est le deuxième coût après la masse salariale. Donc, c'est très important de pouvoir les aider à franchir tout ça et puis surtout de ne pas avoir à débourser ce qu'on appelle le CAPEX, c'est-à-dire des sommes très lourdes dès le départ d'aménagement en fait, de leurs locaux. Parce que quand ils viennent chez nous, ils viennent, ils prennent leur ordinateur, ils se connectent à Internet et ils peuvent commencer à travailler. Ils n'ont absolument pas à penser à changer
de locataire. C'est clé en main, en fait.
C'est clé en main, absolument. C'est clé en main. Donc, c'est très important pour ces startups avec les économies des coûts initiaux et l'accès à l'environnement collaboratif également. C'est important quand vous êtes une startup.
Bien sûr, d'échanger.
D'échanger avec beaucoup d'autres sociétés. J'en parlais tout à l'heure, des grandes sociétés, des grandes entreprises qui sont chez nous. Alors, imaginez quand vous êtes une startup, je ne sais pas, dans la tech et que vous avez Google dans le même espace. Je dis Google comme je pourrais citer n'importe qui d'autre. C'est extraordinaire. Vous n'aurez la chance nulle part d'avoir ce genre de contact. Donc, les startups, c'est également un tissu pour eux environnemental très important. Et on a également les PME. Les PME qui viennent nous voir, donc qui sont en phase de consolidation ou d'expansion, en fait. Et ils viennent nous voir pour des localisations stratégiques. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des adresses qui sont prestigieuses pour certaines, hein, avec la marque Signature, on le disait tout à l'heure, 10 Place Vendôme. Donc, vous êtes un bijoutier, vous êtes une PME et vous voulez avoir une adresse 10 Place Vendôme. Les chances d'avoir un bail commercial au 10 Place Vendôme ou sur la Place Vendôme sont très rares. Donc, ils viennent nous voir. Ils viennent nous voir. Le super opérationnel clé en main, on le disait tout à l'heure, comme ça, ils vont pouvoir se concentrer sur leur cœur de métier. Et pas avoir à se disperser sur payer la facture d'électricité. Ah mince, on a fait des tâches sur la moquette, il faut un shampoing moquette. Tout ça, on le gère pour eux. Donc ça, c'est très important. Comme ça, ils se concentrent sur la consolidation de leur business et justement sur l'expansion de leur business et la capacité à réduire le risque. Et également, quand vous êtes une PME, vous regardez toutes les lignes de coûts. Et c'est vrai que d'avoir une solution qui peut, avec le temps, parce que nous, on a des contrats très flexibles, hein, des contrats au mois le mois, 12 mois, 24 mois. Donc si vous prenez un contrat au mois le mois, vous avez un mois de préavis à donner. Et vous pouvez tout à fait vous désengager de votre contrat.
C'est intéressant ce que vous dites. La moyenne des contrats chez vous, est-ce que...
12 mois.
12 mois, d'accord.
Donc ça reste...
Ça reste assez court. Hein.
Ça reste court et en même temps assez long. Parce que ce n'est pas du mois le mois. Nous, on propose du mois le mois. J'aurais pu vous dire 3 mois. Parce que c'est un modèle flexible et on aurait pu se dire... Non, c'est 12 mois. Donc ça veut dire qu'on a des personnes qui, il y a 10 ans, nous considéraient comme une solution en ce qu'on appelait du « swing space ». Entre deux baux, ils nous les utilisaient éventuellement.
Ouais.
Et ça durait.
Pour se retourner.
Voilà.
Pour...
Sauf qu'aujourd'hui, on est vraiment une solution à part entière et ils nous utilisent comme une vraie solution immobilière.
Alors, vous apportez aussi des services à vos coworkers. Vous pouvez nous citer un petit peu les services que vous avez. Il y en a qui sont hyper sympas et puis les demandes aussi de ces coworkers.
Bien sûr. Alors, on a des vraies demandes depuis maintenant, peut-être, un an et demi pour des locaux à vélo. C'est systématique.
Des trottinettes aussi
locaux à vélo, mais sécurisé, c'est hyper important. Ça fait partie en fait des critères que recherchent toutes ces sociétés.
Dans les grandes villes, il y en a de plus en plus.
C'est hyper important parce que on favorise justement la mobilité douce, l'économie, la réduction de tout ce qui est gaz à effet de serre. Donc ça, c'est très important pour les jeunes générations, mais pas que. Et donc, c'est vrai que le local à vélo, c'est quelque chose d'important. Ensuite, on a les recharges électriques avec les voitures. Voilà, les recharges électriques. Les endroits de convivialité, c'est toujours très, très important, en effet, d'avoir ces endroits-là pour pouvoir...
Prendre un café,
échanger, etc. Ça, c'est hyper important. Les douches, parce que, bon, beaucoup... C'est vrai qu'on le voit beaucoup à Paris, mais en région aussi, les douches. Bah oui, on va courir entre midi et deux, on fait du sport, etc. Donc, c'est important d'avoir des douches. Les phone box. Les phone box, c'est ben justement, on parlait de flex office tout à l'heure. Personne n'a vraiment sa place. On vient deux jours par semaine, ou trois jours, ou quatre jours par semaine. Et c'est vrai qu'on a besoin de temps en temps de s'isoler pour passer un coup de fil. Et c'est vrai que les phone box,
c'est important d'en avoir.
Important d'en avoir, pour que les personnes
puissent s'isoler. Un peu d'intimité,
s'isoler. Ouais. Ouais, absolument. Et bon, bah pour certains, c'est la salle de gym. Et c'est vrai que là, c'est les derniers actifs avec qui, avec les partenaires avec qui on a signé dernièrement, on a de très beaux actifs où il y a de plus en plus de salles de gym dans l'immeuble dans lequel on est.
Donc avec des profs qui viennent donner cours.
Ouais, des profs ou même des machines. Hein. Ouais. Il y avait des machines, des vélos, des machins. Alors c'est dans l'immeuble dans lequel on est. Donc ça veut dire que nos clients peuvent bénéficier de ces services dans ces bâtiments-là. Et ça, c'est une vraie tendance des propriétaires d'assurer ce type de service supplémentaire aujourd'hui.
Alors, on a parlé justement, Célia, des besoins des entreprises. Quelle est actuellement la plus grosse contrainte pour les entreprises ?
Christelle l'a cité, mais aujourd'hui, les entreprises ont pas mal de contraintes, l'accessibilité, la rétention des talents, toutes ces choses-là, mais ce qui ressort en priorité, notamment ces deux dernières années, c'est l'optimisation des coûts liés à l'immobilier. Je pense que maintenant qu'elles sont à peu près stabilisées, qu'elles ont trouvé l'équilibre entre télétravail, présentiel, elles ont besoin de faire le bilan sur leurs baux en cours, sur leur surface occupée, et la plupart se rendent compte finalement qu'elles ont peut-être un peu trop de surface. Donc pour y remédier, certaines ont recours à la sous-location.
Donc elles sous-louent leur bureau.
Elles sous-louent, exactement. Elles cherchent à sous-louer une partie de leur
bureau. Il y a des gros groupes qui font ça, des entreprises du CAC 40.
En attendant la fin de leur bail.
En attendant la fin de leur bail, exactement. Oui, à la fin de bail, ils réduisent parce que être bailleur, gérer des locataires, des sous-locataires, c'est un métier.
C'est un métier.
Oui, exactement. elles s'en rendent compte. Donc voilà, la principale contrainte aujourd'hui, effectivement, c'est l'optimisation. Si elles ont effectivement plusieurs surfaces réparties sur le territoire, c'est peut-être de recentraliser, et notamment en prenant des espaces plus flexibles ou les memberships chez IWG, soit effectivement sous-louer en attendant la fin du bail et réduire la surface.
François, peut-être vous, qu'est-ce que vous constatez par rapport à ça ?
En ce moment, là, depuis quelques semaines, quelques mois, on constate beaucoup de petites entreprises en fait, qui cherchent à sous-louer leur bureau. Alors, le point économique est bien sûr là, mais effectivement, on a de plus en plus de boîtes qui cherchent ça. Donc, ça nous fait dire que les gens cherchent à rentrer de la trésorerie. Soit ils ont perdu en fait des effectifs, soit ils ont besoin de cash. Donc, c'est un petit indicateur qui fait que le marché est un peu plus mollasson qu'il y a un an, par exemple. Donc, ça, c'est ce genre de choses qu'on voit en ce moment. Et je reviens sur les services, comme le disait Christelle. Pas mal de coworking, d'acteurs de coworking, offrent des services qui sont pour attirer les gens au bureau. Par exemple, on a des acteurs qui offrent des services de conciergerie pour le pressing, pour les colis, pour un peu tout et n'importe quoi. Des salles de sport plus ou moins équipées. Il y a même des acteurs haut de gamme qui ont des spas ou des hammams.
Ah oui.
Dans les
ça fait rêver, ça.
Bon, c'est pas le même prix, bien sûr. Le prix moyen est à 700.
Mais est-ce que c'est vraiment utilisé, ce genre de service ? Parce que c'est vrai que sur le papier, c'est hyper vendeur, c'est hyper rêveur. Mais moi, je me dis, je n'aurai pas le temps d'y aller, la journée.
Un hammam. Je ne sais pas si vous en avez
le week-end, j'ai
une fois dans ma vie. Et j'ai été bouchée après.
Non, lors de la visite, ça fait l'effet.
Oui, c'est ça. C'est hyper vendeur, mais c'est vrai que bon.
Mais oui, effectivement, c'est pas le plus utilisé. On vient pour travailler, c'est l'essentiel.
Après, à la limite, c'est vrai que la salle de sport, c'est pas mal parce que on peut s'organiser pour faire de sport.
Et encore. Pas sûr qu'elle soit très utilisée.
Ça fait rêver sur le papier, mais. Les gens ont juste envie de rentrer chez eux après et pas forcément rester après le travail.
Il faut prendre la douche.
Ça fait rentrer chez soi à je ne sais quelle heure. Et puis,
oui,
En fait, tous ces services, c'est plus une question d'image et d'attractivité. Ouais,
d'attractivité, ouais. parce que c'est ça, les entreprises aujourd'hui, l'enjeu des entreprises, c'est de que les gens aient envie de venir
au
bureau.
Est-ce que c'est pas plutôt pour les jeunes générations? Parce que c'est vrai, bon, je passe un peu pour la vieille en disant ça, mais quand on a des enfants, ouais. on n'a pas le temps. Voilà, mais c'est vrai que les jeunes qui n'ont pas d'enfants, qui débutent dans un travail, bon, peut-être qu'ils ont le temps de rester un peu plus tard pour faire un peu de sport.
Mais c'est un peu la course à l'échalote, comme on dit. Hein. C'est ouais. à un moment donné, à vouloir trop les garder et leur faire plaisir, ça va trop loin. Des fois.
Ah oui.
Ça va très très loin. Ça va très très loin. Et du coup, on se retrouve dans cette espèce de boucle où j'ai besoin de ça. Et finalement, c'est vraiment. C'est plus les entreprises qui décident, c'est vraiment les utilisateurs qui, au quotidien, exigent ceci ou cela. Donc ça peut aller très loin. Maintenant, très bien, mais il y a d'autres moyens de retenir ces talents. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de leur proposer justement des solutions à côté de chez eux pour qu'ils puissent éviter et gagner en paisibilité, en bien-être en tout cas.
Et aller à leur salle de sport.
François, vous vouliez réagir?
Ouais, c'est quelque chose qu'on constate de plus en plus. Ça, c'est parce que nous, à la fois, on accompagne sur le long terme les entreprises à trouver des bureaux, mais on leur offre une solution pour du court terme. Et donc, en fait, les gens qui trouvent des bureaux, par exemple, dans Paris ou en banlieue, après, ils utilisent des tiers-lieux, des coworking pour se réunir en équipe, parce qu'ils n'ont pas forcément les bureaux pour recevoir tout le monde, vu qu'ils ont très petit. Donc, ils prennent des salles de réunion pour vendre ou des salles d'événementiel. Justement pour se réunir une fois par mois, une fois par trimestre, ça dépend de leur organisation, mais ça permet d'avoir cette flexibilité, en fait, d'avoir des lieux qui sont beaucoup plus grands, qui ne pourraient pas se permettre dans des espaces de coworking.
En fait, c'est vraiment du sur-mesure.
C'est la consommation du bureau, enfin, c'est du office as service. Je prends mon bureau à Nantes et à Bordeaux parce que j'ai des équipes là-bas, mais on va se réunir une fois par mois à Rennes parce que le siège est là-bas, par exemple. C'est ce genre d'utilisation qui peut être présente.
Alors, on voit vraiment que les temps ont changé. Hein. Il y a plusieurs dizaines d'années, c'est vrai que les entreprises, alors arrêtez-moi si je montre, étaient plutôt propriétaires de leur... Enfin, il y en avait plus, en tout cas. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des entreprises propriétaires de leurs bureaux, de leurs locaux?
Oui, il y a encore des entreprises propriétaires de leurs bureaux. Il y a encore toujours une forte demande, hein, d'ailleurs. Mais c'est un certain type d'entreprise, un certain profil. C'est des entreprises qui sont arrivées à maturité en termes d'effectifs, qui ont une vision moyen-long terme de leur croissance, surtout en termes d'effectifs, parce que sinon elles se retrouvent finalement cloisonnées dans des bureaux, sur une surface de bureaux limitée. Et ça reste malgré tout un bon investissement pour les dirigeants de ces entreprises, hein, qui se constituent un patrimoine et qui pensent à leur retraite. Après, il y a deux étapes clés, en fait, où ça peut les mettre en difficulté, c'est sur la revente ou sur l'achat pour les entreprises, parce que entre le moment où vous trouvez le produit qui vous correspond, il faut être capable d'aller très vite à l'acquisition, et s'il y a des travaux à faire, choses comme ça, et qu'en parallèle vous devez vendre votre bien pour pouvoir financer le nouveau, c'est là où les espaces flexibles ont toute leur importance et leur utilité entre deux acquisitions.
Alors concrètement, aujourd'hui, quels sont les enjeux pour les entreprises, François? C'est vrai que vous l'avez plus ou moins évoqué, hein, mais concrètement, au niveau des locaux en tout cas.
Nous, à notre niveau, on est experts du flexible, donc c'est eux, ils viennent chercher la flexibilité.
Donc pas de mobilier, de mobilier.
Pas d'investissement de départ. Ils ont une vision sur leurs besoins à 12 mois, 18 mois, et ils y vont. Après, ça leur permet d'être très agiles dans leur façon de s'organiser. Parce qu'en fait, on peut augmenter aussi bien, même si on prend un contrat de 12 mois qui nous engage, on peut augmenter ou baisser la capacité du bureau. Donc c'est ça que les startups cherchent. Dans les bureaux.
Est-ce qu'il y a vous nous avez parlé de la durée moyenne chez vous, chez IWG, c'est 12 mois pour les entreprises. Est-ce qu'il y a une durée limite justement pour que le bureau flexible reste intéressant?
On parle de 24 mois de maximum, après c'est plus ou moins. Effectivement, si après on reste plus longtemps dans les bureaux, en tout cas sur la même capacité, c'est peut-être un peu plus cher que le coworking. Après, ça... Il y a plein de solutions à ce niveau-là. Mais effectivement, si on est là pour plus de 3 ans, effectivement, le bail a du sens.
Alors, en préparant cette table ronde, vous m'aviez dit que le mot coworking, enfin en tout cas c'était ce que vous aviez constaté, faisait peur. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu pourquoi ça fait peur et dans quel contexte ?
Ce qui ressort en fait, nous, à l'inverse effectivement de François, les clients qui nous sollicitent, c'est plus au départ pour du bail traditionnel. On a de la pédagogie à faire pour justement les initier au coworking et souvent ça se passe très bien. Enfin, parfois on les installe en solution temporaire et puis après ils y restent. Ils ne partent plus en bail classique. Et le mot coworking fait peur parce qu'on s'imagine l'espace de coworking en fait, au milieu de plein de sociétés avec son petit bureau bruyant, voilà, toutes ces choses-là. Sauf que ça, c'est qu'une partie de l'offre hein, de service effectivement des centres d'affaires. Il y a aussi une crainte liée au coût. Il y a beaucoup de services, comme on l'a dit, chez les coworkers. Ça peut effrayer des petites entreprises qui se disent « Mais moi, je n'ai pas forcément besoin d'un accueil, je n'ai pas besoin d'un service courrier. » Voilà. Alors, ce qui est une fausse idée, hein, parce que quand on compare après, finalement, l'utilisation de ces... On se rend compte qu'on est... Oui, c'est un petit peu plus cher, mais la flexibilité a un coût. Et c'est normal.
C'est marrant parce qu'en fait, quand on regarde... Il y a eu plusieurs nouvelles tendances concernant le professionnel, mais aussi la vie personnelle, et ça se rapproche. Les gens sont de plus en plus friands de logements clés en main, de bureaux clés en main. En fait, on a l'impression qu'on a besoin d'une vie clé en main. Hein. C'est un peu ça. Hein.
On consomme du service un peu plus tôt, c'est ça. Ouais.
On consomme du service et on a besoin, justement, parce que dans l'esprit de tout le monde, on a un avenir incertain. On ne sait pas trop. On navigue un peu à vue hein, ces derniers temps, que ce soit dans le monde, la situation géopolitique mondial et en France également, évidemment, avec les derniers événements. Et on se dit, je préfère quand même avoir la possibilité de sortir. Au-delà de ce côté clé en main, je pense que c'est aussi vraiment la flexibilité que toutes ces sociétés viennent rechercher chez nous. Moi, je reviens juste sur les coworking et pourquoi. Enfin, coworking, c'est juste une partie de l'offre. Hein. C'est ce qu'on disait. Ouais. C'est une partie de l'offre. Un coworking, c'est en effet, vous êtes une jeune société, vous êtes un indépendant, vous avez besoin d'un poste au milieu, en effet, d'autres indépendants. Donc oui, ça, c'est du coworking. Ou alors, vous travaillez, vous êtes complètement nomade, et oui, vous êtes dans l'espace de coworking parce que vous avez besoin de bosser 2-3 heures par jour à Budapest, à Londres ou à Tokyo. D'accord ? Donc ça, c'est... Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que vous venez nous voir, vous avez 50 personnes, on peut vous privatiser un étage. Donc ça, c'est votre espace dans un espace...
Oui, encore une fois, c'est du sur-mesure, en fait.
Flexible. C'est du sur-mesure. Ouais, ouais.
Tout est possible chez vous.
On a des offres à tiroirs et finalement, vous venez nous voir, on vous écoute, on vous entend et on vous propose exactement ce dont vous avez besoin. Et la fausse image que le coworking, les espaces flexibles sont plus chers, quelque part, quand vous regardez la full picture, c'est faux. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas vous engager sur 6 ans ici. Vous n'allez pas faire des travaux à hauteur de 100, 200 000 euros.
Il y a quand même beaucoup moins d'inconvénients que quand on fait appel à vous, par exemple, en tant que société.
Évidemment. Et puis, c'est moins cher de faire à manger soi-même qu'aller au restaurant. Évidemment. Donc oui, à partir du moment où vous avez les services, c'est les services, en effet, qui se payent.
Et alors, dernière question, si on imagine, alors là, on a vu une belle évolution hein, des espaces de travail, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour l'avenir ? C'est vrai qu'il y a 10 ans, c'était totalement différent. Dans 10 ans, à votre avis, alors là, c'est vraiment subjectif, hein, dans 10 ans, je ne sais pas, comment vous voyez nos espaces de travail, nos bureaux ?
Moi, je pense qu'ils existent déjà, les espaces du futur, et c'est justement les espaces de travail flexibles. C'est-à-dire que c'est le bon concept en fait qui rassemble à la fois la flexibilité et les services que toutes les entreprises veulent. Ouais. Elles commencent à s'en rendre compte. Nous, on transforme de plus en plus d'entreprises en bail vers du flexible parce que le Covid est passé. Elles se sont dit mes bureaux sont inutilisés, je veux du service. Et de plus en plus, ça tend vers cette couche servicielle qui est importante pour eux.
Donc plus envie de subir, envie de, c'est ce que vous disiez hein, tout à l'heure, consommer du service, davantage de services pour plus de tranquillité. Christelle, est-ce que...
Oui, les bureaux de l'avenir, c'est, en effet, on a déjà mis un pied dedans, mais ils seront marqués par la flexibilité, la technologie et le bien-être. Hein. S'il y a 3 mots, c'est vraiment ça. La technologie, Voilà, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, de plus en plus de technologies de pointe sont en train de poindre et on va tous y arriver un jour, hein, faire des réunions avec nos lunettes 3D. On n'est pas loin, on touche du doigt, hein, ce genre de choses. Donc, la technologie, la flexibilité, évidemment, on vient d'en parler, donc je ne vais pas revenir dessus. Hein, le fait d'avoir le choix. La flexibilité et d'avoir le choix. Le choix d'aller travailler à 15 minutes de chez soi. D'ailleurs, je rebondis là-dessus. Je sais que je rebondis pas mal, excusez-moi, mais me vient aussi, c'est un concept français, c'est la ville du quart d'heure. La ville du quart d'heure, c'est quoi ? Ça a été, c'est un concept qui est né en 2015. La ville du quart d'heure, c'est d'avoir toutes les services à 15 minutes de chez soi. À pied ou à vélo. Donc ça c'est quelque chose
pour
qui
être
va
heureux.
S'amplifier. Pour être heureux.
Pour être heureux, oui.
Pour être heureux. Ouais. Donc ça va s'amplifier à l'avenir. Là, c'est quelque part embryonnaire. On en parle, on aimerait bien. Mais les villes vont tendre vers ce genre de concept et de plus en plus parce qu'elles ont tout intérêt à justement élargir leur tissu d'entreprise, évidemment, et de retenir les talents et les personnes dans leur ville. Donc on va aller de plus en plus vers ce modèle-là. Donc la ville du quart d'heure, ça va s'amplifier, c'est sûr et certain. Et évidemment, le bien-être, l'écologie, c'est hyper important. On est de plus en plus conscient et je pense qu'on voit les effets aujourd'hui de notre manque justement de respect envers la planète. Là, aujourd'hui, il faut qu'on aille dans ce sens-là. Tous, on commence à en être tous conscients. La mobilité douce et vraiment à réduire nos gaz à effet de serre, c'est hyper important.
Donc, c'est marrant d'avoir, c'est bien d'avoir, c'est vrai de citer le bien-être parce qu'avant ça n'apparaissait pas du tout,
pas
hein,
du
dans les priorités.
On n'en prenait pas du tout.
Maintenant, ça fait partie des conditions sine qua non pour un travail. Pour finir, Célia.
Oui. Bon, déjà, je pense que le bureau a encore un bel avenir devant lui, contrairement à ce qu'on pouvait dire. Sortie de Covid, mais maintenant, effectivement, on y est déjà, hein, je rejoins François et Christelle, les utilisateurs veulent de l'agilité, on a de quoi leur en donner, il y en a pour tout le monde, entre les centres d'affaires, le bureau opéré, je conclurai là-dessus, le bureau a encore un bel avenir devant lui.
Eh bien, merci beaucoup à vous trois pour cette table ronde très intéressante sur le travail hybride. Merci de nous avoir suivis. On continue les interviews en direct du CIMI pour cette édition 2024. À tout de suite.
Le CIMI, du 10 au 12 décembre 2024, au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec Bâtisanté, Salvia Développement, Solare IT et Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.